Europe 1.
Napoléon, le petit tyran de Sainte-Hélène. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de l'arrivée de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène et de son quotidien qui va être bousculé par le nouveau gouverneur, Sir Hudson Law. Épisode 2, une longue agonie. Nous sommes le 17 avril 1816. Napoléon et sa cour sont installés depuis 6 mois à Longwood House. Sir Hudson Law, le nouveau gouverneur de Sainte-Hélène, rencontre enfin son détenu. Le mythique Napoléon, ou plutôt le général Bonaparte. Pour les Anglais, Napoléon n'est plus qu'un militaire. Law est un homme dénué d'intelligence et plutôt psychorigide. Il n'a pas l'intention de malmener son prisonnier, mais on n'est pas à la cour non plus. Napoléon est content de rencontrer Law, qui a eu l'occasion de diriger un bataillon corse. L'entretien se déroule en italien car il ne parle pas bien anglais. Très vite, l'empereur prend l'avantage. C'est lui qui pose les questions. Il écrase de toute son autorité le nouveau gouverneur. Finalement, le courant ne passe pas du tout entre eux. Napoléon initie avec son geôlier une guerre des nerfs. Son objectif est clair. Pousser Law à le maltraiter. Il veut donner l'impression qu'il est un martyr et répandre cette rumeur en Europe pour être gracié avec le soutien de l'opinion publique. Il ne perd pas une occasion de rappeler à Law qu'il est un militaire médiocre. À chaque provocation, il y a des représailles sous la forme de nouveaux règlements qui deviennent délirants. Par exemple, Hudson Law interdit à Napoléon de parler à quiconque pendant ses promenades. Et Napoléon se moque de lui parce qu'il ne croise personne sur le terrain surveillé de Longwood House. Pire, quand il s'approche des soldats, on le met en joue. Ce sera un véritable scandale quand on l'apprendra en Europe grâce au valet corse Cipriani. Cipriani est le seul membre de Longwood à avoir le droit de descendre à Jamestown pour le ravitaillement. Il graisse la patte des marins pour qu'ils emmènent en Angleterre les complaintes de Napoléon qui alimentent les journaux sous la forme de feuilletons. Poussé à bout par les provocations de Napoléon, Law décide de réduire les frais de bouche de son prisonnier. L'empereur charge alors Cipriani d'aller vendre l'argenterie impériale sur le marché de Jamestown en expliquant à qui veut l'entendre que le prisonnier est affamé par le gouverneur. Quand Hudson Law apprend ça, il descend sur le marché et rachète lui-même au badaud l'argenterie impériale. Mais le mal est fait. Tout ça se sait à Londres. Bonnie, comme on dit là-bas, devient un personnage attachant alors que Law est vu comme un homme cruel et stupide. Law se transforme effectivement en bourreau. Il porte un coup bas à Napoléon quand il renvoie l'ascase qu'il soupçonne d'espionnage. Napoléon perd l'artisan de ses mémoires. Gourgaud aussi finit par partir. Au bout de 3 ans, sa rivalité avec Montholon est devenue insupportable. Il quitte Sainte-Hélène et, comme un missionnaire, il propage la bonne parole sur Napoléon en Europe. Albine de Montholon s'en va aussi. Après avoir eu une fille de son amant, qu'elle prénomme Napoléone, elle se trouve une nouvelle toquade dans la garnison anglaise. Elle quitte l'île avec son soldat. Mais la perte la plus douloureuse pour Napoléon est celle de Cipriani. Le Corse est la seule personne qu'il considère comme un ami. Il est ses yeux et ses oreilles sur l'île. Avec lui, il peut encore parler le Corse, sa langue maternelle. Un soir de 1818, Cipriani est pris de maux de ventre très violents. Il meurt vraisemblablement d'une péritonite, une inflammation mortelle de l'abdomen. La cour de Napoléon se dépeuple, son moral baisse et sa santé décline. Le médecin de l'île, l'Irlandais O'Meara, prétend qu'il simule une hépatite pour être rapatrié en Angleterre. Ce serait donc, selon lui, une maladie diplomatique. O'Meara est finalement renvoyé en Europe sans son patient. Napoléon n'a plus de médecin. Son état de santé se dégrade. Il trouve un peu de repos dans l'eau chaude de son bain. il ne se promène presque plus, il lit beaucoup.
Mais O'Meara s'est trompé. Napoléon est vraiment malade. Il finit par envoyer une lettre à sa mère, réfugiée en Italie, pour qu'elle lui trouve un médecin.
Or, Madame Mère s'est trouvé un gourou mystique et elle croit que son fils a été enlevé par la Vierge. Elle ne comprend pas la gravité de son état de santé. Mais elle lui déniche quand même un médecin corse nommé François Antomarchi. Antomarchi n'a jamais soigné personne. Il est un spécialiste de l'anatomie et de la dissection. Napoléon est dépité quand il le voit arriver. Mais Antomarchi se montre attentif et s'efforce de sortir son patient de son état dépressif. Napoléon retrouve un peu de vigueur et se lance dans sa dernière politique de grands travaux.
Il s'est mis en tête de refaire les jardins de Longwood. Et comme d'habitude, toute la maison doit le suivre et marcher au pas. Il s'occupe du potager et des plates-bandes comme on prépare une campagne militaire. Il fait pousser de grandes haies derrière lesquelles il peut se promener sans être vu des sentinelles anglaises et ça le fait rire comme un enfant de les observer avec ses lunettes.
Cependant, si le moral revient, sa santé s'étiole. Napoléon se plaint constamment d'avoir des douleurs dans le ventre. Il les ressent comme des coups de canif. Nous sommes au printemps 1821. Napoléon n'arrive plus à se lever. Il vomit du sang. On a décidé d'installer son lit de camp adoré dans le salon de Longwood. Comme c'est la seule pièce pourvue de deux fenêtres, on peut aérer plus facilement. Napoléon ne veut plus jamais être seul. Il y a toujours quelqu'un pour le veiller. Ses moments de lucidité sont de plus en plus rares. Il demande alors à voir les portraits de son fils et il se désole. Puis il sombre à nouveau dans des moments de délire fiévreux. Il est trempé de sueur, mais il a froid. On le réchauffe avec des bouteilles d'eau chaude dans son lit, mais rien n'y fait. Antomarchi ne sait plus quoi faire pour soulager son patient.
Il décide de lui faire prendre, sans l'en avertir, un remède que Napoléon a pourtant interdit, le calomel. Le calomel, c'est du chlorure de mercure, un puissant poison. Après en avoir pris 5 grammes, Napoléon se tord de douleur.
Il souffre maintenant d'hémorragie interne. Les yeux révulsés, il accuse Antomarchi de l'avoir trahi. Napoléon réunit ses dernières forces pour dicter son acte de décès tel qu'il le souhaite. Et puis il appelle le général Bertrand. Bertrand s'attend à une dernière gratification. Et là, Napoléon lui murmure que sa femme est une forteresse imprenable car elle n'a jamais cédé à sa cour. Bertrand se redresse dignement et garde le silence. Et puis Napoléon délire au sujet de Joséphine et de son fils. Toute la journée, il agonise. Les habitants de Longwood se sont réunis autour de lui pour ses derniers moments. Sa respiration se fait de plus en plus lente. Elle s'arrête parfois, elle repart, et enfin elle s'arrête, définitivement. Madame Bertrand se lève et arrête les aiguilles de l'horloge. Il est 17h49, le 5 mai 1821. Les habitants de Longwood contemplent le cadavre de Napoléon. Ses traits semblent soudain apaisés. Ils le trouvent beau. Malgré l'interdiction des Anglais, Antomarchi fait un masque mortuaire de l'empereur. Il a déjà en tête l'idée d'en vendre des copies quand il rentrera en Europe. Le médecin procède aussi à une autopsie. Le père de l'empereur est mort de l'estomac. Napoléon craint d'avoir un mal héréditaire dont il faudrait informer son fils. Le médecin passe les organes en revue et trouve le coupable. Il y a un trou gros comme un doigt dans l'estomac. Napoléon est mort d'un ulcère. Le 9 mai, l'empereur est mis en terre dans son uniforme vert de colonel des chasseurs de la garde. Sa tombe est creusée dans la vallée paisible du géranium. Hudson Lowe s'assure que son prisonnier ne s'évade pas même après sa mort.
Le général Bonaparte repose dans 4 cercueils sous de la terre, du gravier et du ciment. 2 semaines plus tard, la cour quitte Longwood. Leur exil volontaire est terminé. Il reste un épilogue à cette histoire. Dans son testament, Napoléon avait émis le souhait de reposer près de la Seine, au milieu de ce peuple français qu'il a tant aimé. En 1840, l'historien et homme politique Adolphe Thiers publie son livre « L'histoire du consulat et de l'Empire ». Il convainc le roi Louis-Philippe de faire revenir la dépouille de Napoléon à cette occasion. Bertrand, Gourgaud et le fils de Lascaz font le voyage à Sainte-Hélène pour exhumer le corps et l'emmener dans sa dernière demeure sous la coupole des Invalides. Au moment d'ouvrir le cercueil, tout le monde retient son souffle. Et puis on se met à pousser des cris déchirants. Le corps de Napoléon est extrêmement bien conservé. On aurait cru qu'il dormait depuis 19 ans. Quelques semaines plus tard, l'empereur retrouve Paris en triomphe. Depuis sa mort, ses mémorialistes ont bien participé à la création de sa légende. Le mémorial de Sainte-Hélène de Lascaz est un best-seller sur le quotidien de Napoléon en exil. C'est la fin de ce récit en 2 parties consacré à Napoléon, le petit tyran de Sainte-Hélène. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique de ce podcast est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de sa diffusion.